L'imperturbable Max Verstappen, qui a remporté le Grand Prix d'Arabie Saoudite, le triple champion du monde, semble totalement hermétique à la pression qui monte au sein de son écurie. Affaire Horner suite aux soupçons de comportement inapproprié envers une collaboratrice. Déclaration incendiaire de son père Jos, suivie de menaces de suspension de son mentor. Helmut Marko suspecté d'avoir fomenté toute l'histoire. La maison Red Bull brûle, risque-t-elle d'exploser? Retour également sur l'exploit du rookie Oliver Bearman sur Ferrari. La Scuderia peut-elle encore rattraper Red Bull? Retour également sur Mercedes. L'écurie est-elle condamnée à faire le yo-yo comme l'an passé? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode déjà d'On refait la F1. Merci infiniment pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît, c'est important. Je vous rappelle qu'On refait la F1 dispose désormais de sa propre chaîne YouTube. Je vous invite donc à vous abonner en cliquant sur le lien qui se trouve, si vous nous regardez sur la chaîne d'On refait le Mac, dans la description de la vidéo là en dessous. L'émission sera encore disponible quelques temps également sur la chaîne d'On refait le Mac avant de basculer définitivement du côté d'On refait la F1. Et attention, nouveau jour de diffusion, ce n'est plus le jeudi, on refait la F1, c'est désormais chaque lundi après un Grand Prix, c'est simple. Allez, avec pour arbitrer nos fanas du paddock, dont l'expertise est, comment dire, parfois quelque peu de mauvaise foi, notre team principal, Eric Bouillet. Radio Check, Eric.
Radio Check, bonjour à tous.
Loud and clear.
Avec à mes côtés notre polémiste de la F1, on le sous-nomme ici maintenant l'Helmut Marko de la F1, fan de Lewis Hamilton et de son écurie Mercedes, monsieur Laurent Pantanach.
Bonjour tout le monde. Bon, on va changer de sport bientôt.
Voilà, plus de casquette Mercedes, plus de t-shirt Mercedes, tu te prépares à passer au rouge?
Non, regarde, j'ai mis un polo, tu vois, je fais tout comme Eric.
À tes côtés, lui, il est plus corporate pour défendre les bleus, il est aux couleurs des bleus, l'écurie alpine, Guillaume Pommier. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous, et toujours avec la belle veste alpine.
Oui, et tout ce qui est de beau,
il reste que ça. Ouais.
Ne bouquez pas trop les tifousés, à mes côtés les tifousis, les fans de Ferrari, à commencer par Monsieur Pépone, alias Fabrice Marcellin, le maire du village Bassia, ça va bien?
Très bien, et toi? Bonjour à tous, bonjour aux tifousis surtout.
Oui, ils sont nombreux, et à tes côtés, Monsieur Don Camillo, le père de l'église Ferrari, Monsieur Alain Diduca, bonjour Alain.
Je vous salue tous, comme d'habitude.
Et quant à moi, je demeure un supporter inconditionnel de Fernando Alonso, qui, surprise, annonçait peut-être...
De qui tu as mangé,
Fernando, qui va peut-être mettre fin à sa carrière. En fin de saison, on verra dans un instant si on en parle, si on a le temps, on verra. Allez, on enchaîne tout de suite avec le débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Déjà une seconde victoire, pole position, il manque que le meilleur tour qui est revenu à Charles Leclerc, ce qui va redonner le sourire à nos tifosi. Imperturbable, on le disait dans le sommaire, malgré la pression qui s'exerce au sein de la direction de son écurie qui s'autodéchire. Il a déroulé en apparence sans vraiment trop forcer, hein, les amis. Guillaume, Pérez se classe loin, à 13 secondes.
Oui, mais il n'y a pas de grande nouveauté par rapport au précédent Grand Prix. On a l'un des meilleurs pilotes du plateau, si ce n'est le meilleur, dans la meilleure voiture. Et donc forcément, ça marche très bien, il ne fait aucune erreur et il est loin devant.
Ouais, Eric, on en parlait déjà la semaine dernière ensemble, le nouveau concept avec des pontons rétrécis, hein, développé par Adrien Newey, mais aussi le français Pierre Vacher, dont tu nous avais parlé la semaine dernière, fonctionne bien, fonctionne même à merveille. Et ce qui est assez décourageant, c'est qu'il y a encore une belle marge de progression. Hein.
C'est un nouveau concept, donc effectivement, il y a beaucoup de marge de développement. Après, on s'attendait, je pense, tous à un peu moins d'écart à Jeddah plutôt qu'à Bahreïn. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc ça va être difficile de battre Red Bull cette année. Oui.
Dans son interview dans l'équipe dont tu nous parlais la semaine dernière, Eric, Pierre Vacher souligne l'importance de Verstappen aussi, hein, dans la mise au point de la voiture. C'est une manière de rappeler peut-être les déboires des coéquipiers et aussi l'importance en tant que metteur au point d'un pilote comme Verstappen. On l'oublie parfois. Hein.
Oui, enfin, c'est très clair. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qui marque peut-être la différence avec son coéquipier. C'est le fait que Verstappen, c'est non seulement un bon pilote, et c'est un bon préparateur surtout, qui communique bien avec sa team. C'est très clair.
Ouais, à l'inverse, la voiture, elle est faite pour lui.
Helmut.
Oui, non, mais l'inverse,
c'est un cercle vertueux pour lui et vicieux pour ses coéquipiers.
Et qui met en difficulté Pérez,
Et je trouve que finalement, Pérez, à 13 secondes, pour moi, il est meilleur que l'an dernier. Tu vois, que la fin de saison. Finalement, il se qualifie 3, 4, 5, il s'en fout, il finit deuxième et il finit pas à 3 minutes, quoi. Il finit à, tu vois, 20 secondes la dernière fois, 13 secondes là. Ouais, c'est ouais.
Mais cette relation Verstappen Red Bull a mis en difficulté tous les seconds pilotes. Gasly, qui est un excellent pilote, a été mis en difficulté.
Albon
a été mis en difficulté.
Fiat.
Ricciardo a été mis en difficulté. Kvyat aussi. Et Perez résiste un peu plus, un peu mieux. Bon, après.
Combien de temps encore, telle est la question.
Mais voilà. Mais
il a quand même piloté avec le coude sur la.
Voilà. Ouais, encore une fois, une main au volant et hop, hein, il y va, quoi. Hein,
il a raté le meilleur tour quand même.
Ouais, ben heureusement, on va en parler de Ferrari dans un instant. Ouais, mais avant, une chose est sûre, c'est que le Batave semble totalement hermétique à la pression.
Le Batave est imbattable.
Est imbattable, qui s'exerce au sommet de l'écurie. J'avais demandé qu'on ne me coupe pas dans mes lancements, à tel point que l'on peut se demander si elle ne risque pas d'exploser, l'écurie Red Bull. On peut dire imploser, après tout, elle peut imploser forcément de l'intérieur. Mais avant, un petit clin d'œil à nos sponsors, à notre sponsor cette semaine. Il s'agit de NordVPN qui vous propose une solution pour sécuriser votre navigation sur le net et pour vous, fans de F1, une solution pour regarder simplement les grands prix si vous êtes à l'étranger, par exemple. Laurent nous dira tout dans un instant. Allez, Red Bull va-t-elle imploser, va-t-elle exploser? C'est la question qu'on peut se poser légitimement. On pensait à l'incendie éteint, Laurent, la semaine dernière, après les conclusions de l'enquête, hein, enquête privée qui visait le team principal de l'écurie, M. Christian Horner, pour, je cite et j'ouvre les guillemets, comportement inapproprié. Et puis, Jos, on en parlait déjà, Verstappen, le papa de Max, a soufflé sur les braises en déclarant que la tension va demeurer dans l'équipe tant qu'il, Horner, reste sur place. L'écurie est en danger de dislocation, je cite, rien de moins. Ça a plutôt conduit à une explication musclée entre les deux hommes la semaine dernière, Laurent.
Alors, ça a conduit à plusieurs choses. Hein. Une explication musclée, ça a conduit à un échange entre l'agent de Max et Christian. Et surtout...
il a été interdit de paddock, je crois.
Yoss en a rajouté encore une couche. Hein, tu vois,
alors, il n'était pas là, mais il a quand même voulu mettre...
Ouais, il a quand même truc. Alors, il a été interdit de paddock. Alors, attention, officiellement, il n'était pas disponible ce week-end.
Il avait un rallye, messieurs.
Il n'avait pas les sites, non, voilà. Non, c'est pas lui, pardon.
C'est pas lui, c'est Ferrari.
Donc voilà, il n'était pas dispo, mais c'est la première fois qu'il n'est pas dispo, parce qu'il est toujours là, hein, d'habitude.
Regardez, cette bonne tête de gagnant, ça donne envie, voilà, non
tête de... D'ailleurs, je crois que certains ont des choses à dire. Hein.
Alors, mais je crois que M. Deluca a du lourd, mais juste un mot peut-être, Laurent, il a encore ajouté une couche cette semaine par la presse. Tu veux que je cite, tu veux citer comme tu veux.
Non, il a dit, je pense qu'il restera jusqu'à la fin de la saison.
Pardonneur.
Je dis que c'était une mauvaise chose qui reste. Toutes ces situations n'est vraiment pas la bonne pour l'équipe. Tout ce qui se passe a une influence sur Max. Donc tu vois, là, il déplace le débat. Donc au début, il a parlé de l'équipe en disant qu'il a un impact sur l'équipe. Donc voilà, est-ce que tu m'autorises...
Influence sur Max, vraiment? Qu'est-ce qui peut plus que dominer ce qui se passe là?
Il a essayé de dire que c'était dangereux pour l'équipe, ça a fonctionné. Donc maintenant, il essaye de faire la menace. Il joue toutes les cartes à son arc, sachant que je sais pas si tu m'autorises, hein, mais
je t'autorise, mon chéri.
Donc il y a eu, c'est intéressant parce qu'il y a eu l'enquête et la conclusion de l'enquête, c'est bon, mais finalement, il y a rien. Ce qu'il semblerait s'être passé, c'est que dans l'enquête, chacun a sorti tous ses arguments.
Je comprends pourquoi tu me demandes, il faut que je t'autorise.
Donc,
chacun a sorti le drapeau jaune.
Ouais,
chacun a sorti ses outils, ses dossiers.
Oui.
On a dit, Horner a mal agi, mais on s'est rendu compte dans l'enquête de deux choses. La première, c'est que le comportement de la personne incriminée était peut-être un peu bizarre, même, tu vois, d'essayer de lui faire sortir des choses. C'était un peu étonnant. Dans les messages échangés que l'on a vus, les messages WhatsApp, nous on a dit, hein, ceux qu'on a vus, parce qu'on a vu la même que les autres, hein, mais ceux qu'on a vus n'étaient pas, ils n'étaient pas tous parfaits, hein, mais ils n'étaient pas non plus hyper, hyper, hyper noirs. Et là, boum, patatras, sort dans la presse que la Fiona aurait pu être à un moment ou à un autre avec parce qu'on est sûrement illisible, hein, donc ouais. Avec Jos Verstappen. Donc là il y a la théorie du complot. Quoi.
Là, c'est écrit par Netflix, je pense. Il y a un bon scénariste.
Non, mais de toute façon, il se passe rien. Donc il fallait trouver quelque chose hors piste.
D'ailleurs, on parle plus de l'extra sportif.
Heureusement, sinon on n'aurait rien à dire.
C'est une nouvelle série Télénova qui est sortie. Et c'est pour 1% de sport, on a 90% de séries Netflix derrière tout ça.
Ouais, c'est Dallas.
En fait,
Red Bull nous prive de spectacle sur la piste.
C'est carrément autre chose que Dallas. Soyons clairs. Mois d'octobre.
hein, ouais. ici sur cette émission, ouais. Eric. Eric de... X années. Enfin,
Eric Bouillet, principal. Oui, Eric Bouillet. Principal.
X années de présence en Grande-Bretagne, c'est décodé hein, un message qui est envoyé par Horner en disant bah, Helmut Marko, il a bien fait son job, etc. Il a bien fait son job, ça veut dire pour le mettre de côté.
80 ans, il
Et
parle
qu'est-ce qu'on a dit à ce moment-là ? Ça va peut-être pas si bien se passer que ça.
Ouais.
Début de l'année, hein, déjà ici dans l'émission, on dit ça va être règlement de compte à Hockey Coral.
C'est vrai.
Parce que quand des gens ont tant de dossiers l'un sur l'autre, évidemment que s'il y en a un qui essaye de tuer l'autre, ça va se passer comme avec Platini et Blatter, je l'avais dit à l'époque. Et c'est là, vrai. En plus, mais pour Netflix, c'est terminé. Magnifique.
Ils ont perdu tous les deux. Hein.
On a d'énormes vedettes. C'est ça qui est bien dans notre truc. Donc, ce n'est pas un soap opéra, hein. Ce n'est pas une petite telenovela, c'est vraiment du vaste...
Aïe, aïe, aïe.
Mais évidemment... Aïe. C'est du super lourd, les gars.
Alors, et
regardez.
Tu as du dossier. Alors, tu nous as dit que tu avais été renseigné.
Oh, et je ne dis pas lourd. Tout maintenant, mais il y a du très lourd. Les vedettes en question, c'est Horner, 7 titres de champion en 18 ans. Il faut quand même le faire. Hein.
Ouais. Il a créé une écurie from scratch. Hein.
Voilà, il a créé Ardennes from scratch, oui, deux titres de champion. Puis, poum, il va chez Red Bull. Le gars, il a 7 titres en autant d'années. Enfin,
il vient d'aider pas New Way, quand
On
même.
Prend Helmut Marko. Alors, lui, vainqueur des 24 heures du Mans, c'est son grand fait d'armes, hein, avec Gaze Van Elf, si mes souvenirs sont bons. Et puis, en gros, ben, Helmut, il est très proche de notre ami auditeur Mateschitz, fondateur de Red Bull. Les Autrichiens s'aiment.
Aujourd'hui, disparu.
Alors, mais attends, et quand même, il a quand même comme fait d'armes, c'est lui qui a découvert Wendlinger, Berger, Sébastien Vettel, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly et Max Verstappen.
Pas mal.
C'est du sérieux. Hein,
c'est pas mal.
Alors, Adrian Newey. Alors lui, c'est encore autre chose. Depuis 1991,
il a gagné... J'aurais dit.
Solid, very solid.
Ah voilà. Ouais, attends, et j'ai pas fini. J'ai ouais. pas fini. Non. Adrian Newey, depuis 1991, 13 championnats. Hein, en 33 ans... Et avec trois écuries différentes.
C'est 1 sur 3, quoi.
Avec trois écuries différentes. Ouais. Chapeau bas, il n'y a rien
reste à faire. Respect. Ferrari,
respect.
Voilà.
Respect.
Respect. Et pour reprendre Eric la semaine dernière, ben oui, et il y a 5 ans, il a déjà désigné Pierre Vacher comme son successeur. Donc là, c'est, il y a en plus le fils spirituel qui vient derrière. Et puis, ben, on a dit, octobre 2023, le début du règlement de compte. Et maintenant, c'est parti plein pot. Avec un exécuteur des bases œuvres dont on parlera peut-être tout à l'heure,
oui.
qui est notre ami Saint-Joseph. Jos Verstappen, Jos de Boss, Jos l'exécuteur des bases. Et ça, il y a du très très lourd sur Jos Verstappen.
Il sait faire. Hein.
Il sait faire, exactement.
Alors, en tout cas, je ne sais pas si cette histoire a une influence sur Max. En tout cas,
malheureusement non.
Voilà. Mmh. Verstappen a été interrogé. voilà. En tout cas, Verstappen.
Si c'est le cas, attends, plus grave. Malheureusement non. Et quand je regarde moi le documentaire de Canal sur la vie entre Max et son père, franchement, le comportement du père est totalement déplacé. Aujourd'hui, on n'admettrait plus ça. Mmh. Les violences de tout niveau entre Jos et son fils sont parfaitement inacceptables. Je le dis et je le répéterai tout à l'heure.
Ce qu'on appelle un éleveur de champions, mais
oui, oui, mais quand même, il ne faut pas exagérer peut-être. Hein.
Alors, en tout cas, Verstappen a été interrogé sur les déclarations de son père. Il a essayé un peu de désamorcer, mais un peu maladroitement. Alors, je le cite, d'après ce que je sais de lui, c'est son père, hein. Et depuis l'époque du karting, il a toujours été très franc, et ce n'est pas un menteur. C'est certain. Donc, il le défend modérément, dirons-nous. Je veux juste me concentrer en conclusion sur le pilotage, dit-il. Et s'il y a des problèmes, nous essaierons de les résoudre au sein de l'équipe. Oui, Laurent.
On lui a aussi demandé de soutenir son team principal et le CEO. Il n'a pas fait. Hein.
Oui, mais on n'y est pas encore.
Ouais, mais tu vois,
on parle de relation père-fils. On se souvient, messieurs, à moins que Eric veuille intervenir, qu'on s'entend déjà. Lewis Hamilton avait pris de la distance avec son papa, qui était au début très, voire trop présent dans le stand McLaren. Peut-être un petit mot d'Eric avant de réagir en plateau.
Non, non, après tout ce que j'entends, effectivement, on va de Hello Magazine à autre chose, mais c'est... oui, à l'époque, Lewis Hamilton avait... Il s'est même fâché avec son père pendant quelques années, ils ne se sont pas parlé, donc ça a été un peu plus, mais pour d'autres raisons, on va dire. Max et Jos sont très proches et le sportif primera toujours. Et effectivement, nous sommes dans un règlement de compte au Hockey Coral entre les Autrichiens, les Anglais et les Thaïlandais. Et voilà.
Alors, le soutien de... Alors, tu disais qu'il n'a pas coupé le cordon avec son père. Il n'a pas non plus coupé le cordon avec son deuxième père putatif. Le soutien, celui qu'il a découvert, tu l'as dit, c'est Helmut Marko. Hein, un soutien total envers Helmut Marko, qui dirige le programme de direction, vous le savez, des jeunes pilotes de Red Bull. Tu en as fait l'attelage de son talent. Car, Laurent, le Horner Gate s'est mu en Marko Gate. Que s'est-il passé cette semaine ?
En fait, on a appris qu'il y avait une enquête qui était lancée en parallèle envers Helmut, et on
Alors, ce qui se passe, c'est que les copies d'écran, elles sont sorties à un moment donné. C'est des copies d'écran internes qui avaient été mises au dossier et elles sont sorties. En fait, ça a apparemment gêné Red Bull de se dire, mince, mais c'est exactement celle que nous, on a eue.
L'info importante, c'est qui serait à l'origine de ces fuites.
Et surtout, alors, on sait qu'elles
sont sorties. Ce serait ton ami Helmut.
Oui, alors, donc, du coup, ça serait le règlement de compte. Et surtout, on s'est sorti dans la presse bataf, comme
incroyable.
Tu dis, hollandaise.
Ouais.
Donc, du coup, Marco a pris les devants, il a dit, on peut me suspendre, mais...
Oui, il a bien joué. Quand même.
Oui, il a très bien joué. Verstappen a dit, si Marco est retiré, moi, je pars.
Donc, ce que tu dis, c'est que Marco... 83 ans, il sait faire des copies d'écran de WhatsApp et les diffuser à tout le monde. C'est ça qu'on dit.
Ouais, ça va.
Vous êtes salés,
c'est quoi 83 ans? C'est quoi ce,
je sais pas, non, mais...
ce jeunisme de bas étage,
du tout,
monsieur Marcella.
Je vois à 83 ans faire des copies d'écran sur
Yellow Flag.
Il peut se faire aider, d'accord. Donc il est peut-être pas seul, effectivement. Là, on est vraiment dans la série Netflix. C'est assez impressionnant.
Alors, tu nous disais qu'il y avait du lourd sur Jos avant d'enchaîner sur Marco. Tu veux nous rajouter deux, trois petites choses sur Jos Verstappen?
Jos Verstappen, qui quand même a l'air de critiquer Horner pour des trucs. On va quand même citer des faits avérés.
Ouais. Hein.
Alors, en 98, Max a un an. Monsieur Jos Verstappen est condamné à 5 ans de prison parce qu'il a tabassé un gars sur la piste de Genk.
Hein, oui, ça karting. Peut arriver.
Avec une fracture du crâne à la clé pour le plaignant. Bon, c'est rien, c'est pas grave. Ouais. Bon, en 2008, Jos est inculpé parce que il s'est attaqué à Sophie Kumpen, qui est la maman de Max quand même. Hein,
ouais.
Donc,
qu'il est divorcé.
Voilà.
Ah, c'est vraiment Ola Magazine.
Évidemment. Il y a tout là. Il y a violence, outrage, tout ce qu'on
y va.
Voilà. Je ne parle pas de la façon d'élever son fils, on l'a vu dans un documentaire de Canal qui est très très bien fait. En 2012, qui est une année magique, parce qu'il laisse son fils seul sur une station-service après avoir démoli la tente sur la piste de karting, parce que Max est rentré pour gagner la course, il est rentré dans le gars qui était devant lui. Le père n'a pas supporté ça, il l'engueule comme un fou furieux. Super, quoi. Mais cette même année 2012, il est poursuivi pour avoir essayé d'écraser son ex-petite amie avec une voiture. Non, mais c'est rien.
Non, mais ça, c'est des on-dit, monsieur. Alors, non, je ne peux pas.
Dans l'intervalle, quand même, il a été un petit peu poussé sur le côté par Red Bull à une époque, il ne faut pas l'oublier. Hein,
pour le préserver.
Tu vas être moins dans
ils
le
ont
stand
dit,
parce que vraiment, tu gênes un peu.
Voilà.
Ah ouais, ouais. En 2017, il est pris pour une bagarre dans un nightclub. Et puis après, il a été pris pour une bagarre avec son propre père. Parce que...
Ah ouais?
Oui, oui. Mais bon, génétiquement parlant, Jos, c'est du lourd. Hein.
Il n'est pas mis un coup de casque à quelqu'un aussi?
Mais c'est ça c'est sur
ça.
La piste de gang, le coup de casque.
Ah, il a mis un coup de casque.
Ouais. C'est rien,
c'est un coup de casque. Une fracture du crâne, quoi.
C'est Olivier, t'es un bon avocat, c'est bon?
Non, mais voilà. Je ne sais pas. Mais
bon. Et accessoirement, je rebondis sur ce qui a été dit par rapport à qui a refilé le dossier. Ouais. D'abord, il a été refilé à la presse hollandaise, a priori. Et deuxièmement, comme on a dit, à Abu Dhabi en 2021, peut-être qu'il y aurait quelque chose entre notre amie Fiona et Jos. Alors, peut-être que là, il y a un lien de cause à effet, j'en sais rien, mais voilà. C'est donc un merveilleux exécuteur des buzzers. Moi, je vais terminer sur Jos à ce niveau-là. Pour moi, c'est red flag. Je ne comprends pas comment une personne comme ça peut être admise sur les circuits de Formule 1. Je ne comprends pas.
Eric, au secours. Est-ce que... Viens, mon secours, Eric. Je ne sais plus quoi dire.
Bah là, on est passé de Hello Magazine à Closer.
Voilà. C'est ce que je disais. En tout cas...
Et encore, Alain, tu n'as pas toutes les vraies histoires. Il y en a plein d'autres.
Ah bah, vas-y, lâche-toi.
Eric, soyons clairs. Quand on en lâche déjà 5 comme ça qui est dans la presse depuis longtemps, on sait bien que le type, il a 15 casseroles derrière. Mais là, au moins, c'est des trucs qu'on peut aller rechercher, que tous nos merveilleux éditeurs pourront aller chercher. Il n'y a pas de problème. Bien sûr.
Ça veut dire que quand on est petit bras, monsieur. Hein.
Voilà, maintenant qu'on a bien tout déballé, il faut quand même rester au... je pense qu'il y a certains acteurs comme Jos qui sont peut-être un peu pilotés, on va dire, à distance.
Ouais.
Et au final, ça reste quand même tout simplement une rivalité entre deux clans aujourd'hui sur la succession de Red Bull et le pouvoir de Red Bull. Une info que je ne connaissais pas d'ailleurs et que j'ai appris par la presse il n'y a pas longtemps, c'est que Horner... profitant donc de la disparition de Matej Schitz, aurait demandé des parts dans Red Bull, enfin en tout cas dans Red Bull Automotive. Donc ça, c'est un des déclencheurs, je pense, de la prise de pouvoir de Christian Horner en interne qui a fâché un peu les Autrichiens.
Alors, on va enchaîner sur maintenant la relation entre, on a déjà commencé à en parler, entre Max et notre ami Helmut Marko. Lors d'une interview accordée à Sky et à ORF, ce qui est une radio néerlandaise, Verstappen a tout bonnement laissé entendre qu'à ses yeux, le maintien de Marko chez Red Bull était plus important, j'ouvre les guillemets, que celui de Christian Horner. Soyons précis. À la question, si Marco part, vous partirez aussi, il a répondu, si ça arrive, il pourrait y avoir un gros problème dans l'équipe. Oui. à la question, vous liez votre avenir à celui de Horner, doit-il lui aussi rester le plus important, a-t-il répondu, c'est Helmut. Helmut reste. Voilà, c'est plus un uppercut, là, c'est carrément un coup de boule. Hein.
Et là, pour le coup, c'est un soutien de poids pour le clan autrichien. Il y a quand même Max Verstappen qui est la tête de gondole de Red Bull aujourd'hui.
Si Maximel
soutient,
Horner commence à être accusé de tout part quand même. Hein.
À travers Helmut Marko, je pense que c'est quand même un soutien décisif.
Je disais juste avant d'enregistrer là, sur le net, hein, c'est que il y a de nouvelles décisions, en tout cas, semble-t-il. On devrait s'attendre dans les heures qui viennent à un départ forcé ou, j'imagine plutôt forcé, d'Horner.
Ah bon ?
Non, parce qu'apparemment, l'actionnaire majoritaire thaïlandais, donc c'est Chaderm Yudhoyia, qui a 51% des parts, commencera à prendre la pression des dirigeants de Red Bull qui pensent que l'affaire pourrait pénaliser la réputation de Red Bull et les activités commerciales de Red Bull.
Déconner.
Et certains partenaires, dont Honda et Ford. Et on pense que effectivement les heures de Horner seraient maintenant comptées. Et la raison, ce serait
je pense que Horner a quelques dossiers.
C'est toujours pour continuer dans la rubrique.
Moi, je vous le dis juste.
Juste pour te dire que Fiona, semble-t-il, va prendre la parole face aux caméras aussi. Donc on continue.
On l'a pas dit, mais alors il faut pas, la citer, messieurs.
Il y a un risque. Il y a un risque en fait, effectivement, que Fiona. En fait, l'inconvénient, l'avantage pour Horner, c'est qu'il a été protégé par cette investigation indépendante.
Ouais, privée.
Mais il est possible que Fiona le mette dans le tribunal civil et donc, du coup, ça devient une affaire publique. Et effectivement, ça devient très embarrassant en termes d'image et notamment aux US, qui est le premier marché commercial en fait de Red Bull et dans les journaux et surtout les mouvements féministes se sont emparés de cette histoire.
Sauf si elle a signé un contrat de confidentialité avec son ancien employeur. Il faut rappeler qu'elle a été écartée de Red Bull.
Moi, il faut qu'il se dépêche hein, parce que j'ai un pari avec Lucas par les fins et donc en fait, je lui dois un resto parce que j'avais dit que Horner allait se faire virer. Il lui m'a dit non et donc le resto c'est jeudi midi. Donc il faut qu'il se dépêche, les gars, parce que s'il vous plaît.
Tant qu'on est dans les
pour
paris,
mon déjeuner.
Moi, je mets parce que grâce à Unibet, on est dans les paris là maintenant.
Ouais.
Et ben moi, je mets à 3-1 que les deux vont sauter.
Oui, je veux dire, tu parlais Platini et Blatter en donc, football, l'analogie est intéressante.
À hockey choral, ils meurent tous et le seul qui restera heureusement, ce sera Max.
Oui,
parce que Max, c'est
et encore
Max,
gars.
Max.
Et s'il n'a que 8 millions de followers ou 10 millions de followers pour le moment, c'est à cause de son père. Sinon, il en aurait 20 millions, parce que c'est un chouette type.
Ouais, et au-delà, on sait que c'est un gentil garçon et Eric
c'est surtout un excellent pilote.
Ouais. En tout cas, Horner a répondu à Max en marge de la fin du Grand Prix ce week-end. Max, il a répondu, Max est un membre important de notre équipe. C'est un merveilleux pilote, mais tout le monde a un rôle à jouer dans cette équipe. Et il a...
c'est du pur anglais. Hein,
Nous sommes une équipe, aucun individu n'est plus important que l'équipe.
Peut-être Verstappen quand même.
En tout cas, depuis ce dernier épisode digne de Desperate Housewives ou de Netflix, peu importe, Helmut reste du coup, Laurent.
Écoute, on verra. A priori, il y a plus de soutien que.
Il était là ce week-end. En tout cas, il est certain que ça va laisser des traces. Même si Horner, on l'a bien compris, Eric joue la carte de l'apaisement et de l'union. Il y aura encore quelques épisodes à cette série. Ce qui frappe moi de mon côté, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même le silence assourdissant de la FIA et de son président Mohamed Ben Salouyem.
Soulayem.
Comment vous expliquez ce silence, les amis? Je ne vais pas demander à Eric parce qu'il ne veut pas se fâcher de suite, mais un petit peu après.
Mais il a le cul sale lui aussi, quoi.
Non, c'est pas possible.
Alors, au village, j'ai quelques avocats.
Non. Comment se faire banner de YouTube?
On peut rappeler les faits. On peut rappeler les faits. Il y a deux affaires.
Je ne peux pas d'être invité sur un concours à un moment.
Voilà, qui salissent potentiellement le président de la FIA.
Merci de relever le niveau, Guillaume.
Bien. Non, mais la première, c'est effectivement, il sera intervenu
prochain,
pour
c'est
faire
rouge,
annuler une pénalité infligée à Alonso.
N'interrompez pas Guillaume, l'alonziste.
Laisse
Guillaume déployer.
Laissez-moi parler d'Alonso. Notre ami de la FIA aurait favorisé Alonso au Grand Prix d'Arabie Saoudite l'année dernière.
Au détriment de
George Russell, puisqu'il y avait une pénalité qui a été annulée et qui a permis à Alonso de conserver la troisième place du podium. Ça, c'est la première affaire. Et la seconde affaire, c'est par rapport à Formula One. Le Grand Prix de Las Vegas était le premier qui a été à la fois organisé et promu par Formula One, ce qui embête un petit peu la FIA et Mohamed Bensoyem serait intervenu pour ne pas faire homologuer le circuit de Las Vegas l'année dernière. Donc c'est les deux affaires qui ennuient en ce moment le président de la FIA.
Donc on comprend pourquoi il ne rajoute pas une petite couche, parce qu'il va se prendre un retour de flamme sévère.
Donc j'avais raison.
Voilà. Un retour de flamme.
Présente-moi des excuses.
Non, certainement pas.
Sinon, comme Fiona, je prends la parole en public.
voilà, il est exclu pendant 3 minutes, il est exclu. Monsieur, notre type principal, au secours. Alors, quid de Liberty Media, Eric? Elle semble beaucoup plus inquiète. Tu parlais de Red Bull tout à l'heure, mais plutôt de l'image qu'altère l'image de la F1 en général, hein, avec cette équipe. Et surtout, l'arrivée d'un grand constructeur automobile américain, si tu vois ce que je veux dire.
C'est la rançon du succès, de toute façon. Hein. Le plus de visibilité, forcément, plus attaqué et plus, on va dire, sous la loupe médiatique. Et effectivement, ces affaires un peu on va dire, d'intégrité, en tout cas, ne sont pas bonnes pour la F1 ni pour les sponsors. En tout cas, on n'en a pas besoin en ce moment.
Et tu le disais tout à l'heure, aux États-Unis notamment, avec l'arrivée de Ford, hein, qui est le prochain motoriste en 2026 de nos amis de Red Bull.
Ça, Ford a pris position d'une manière officielle à travers des communiqués. Donc, c'est clair que c'est assez étonnant le fait que Ford ne réagisse plus, que la FIA ne réagisse pas, même que la FOM, quelque part, ne réagisse pas. Mais ce serait de l'ingérence aussi auprès des équipes. Donc, c'est un peu compliqué. C'est une situation très compliquée que Red Bull doit gérer en interne.
Les taux se resserrent, messieurs. Allez, revenons au sport.
J'ai vraiment l'impression qu'on est tombé aussi bas que dans le foot, en fait. Et c'est dommage. Ça me fait vraiment mal au cœur pour la Formule 1. Et en plus, voilà, c'est peut-être l'effet médiatique, effectivement.
Qui c'est dire de classifat, tu veux dire ?
Non.
C'est encore des amis.
Mais vraiment, avec ces scandales à répétition, ces textos qui sont révélés, ces sextos qui sont révélés. Enfin, moi, il y a beaucoup de codes qui me font penser aujourd'hui à tout ce que je déteste.
C'est pas les pilotes, en tout cas, qui sont.
Non, c'est pas les pilotes, heureusement. C'est ça qui a la différence.
C'est le team principal. Là, c'est vendre mes captures d'écran de WhatsApp que j'ai avec Eric, hein, ça peut, je peux les vendre à bon prix.
C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. C'est vrai que dans beaucoup de sports,
pour une fois.
Le problème, non mais dans beaucoup de ça.
Pardon, vas-y Laurent.
Dans beaucoup de sports, ce sont les parties prenantes qui posent problème, c'est-à-dire les sportifs. Ouais. Hein, et c'est vrai que là, c'est pas vraiment le cas. C'est pas autour, c'est plutôt à ce qui est autour. Non, dans le foot, tu vois, il y a quand même des joueurs de foot qui ont, tu vois, les mecs, je ne vais pas revenir sur les Benzema et tout ça.
Il y a un élément important dans la Formule 1, c'est que tu as le pilote, mais tu as les bagnoles, tu as les écuries. Donc c'est vrai.
Non,
ce qui va nous amuser pour les semaines qui viennent, ça va être tous les trucs collatéraux derrière. Parce que va faire Max? Est-ce qu'il ne va pas aller chez Toto? Et si Toto fait ça, il va devoir gérer la suite, parce que là, entre Russell et le nouveau venu, ben voilà. Deuxièmement, ce que nous attendons tous, parce que chez Ferrari, nous sommes des gens aimants et avec les bras ouverts, toujours. Évidemment. Hein, Adrian, oui. Pierre,
tu es bienvenue chez nous.
De belles maisons vous attendent, de bonnes pâtes, venez chez nous.
Quoi. Et tu viens à l'église tous les dimanches.
Mais bien sûr,
tu
viens à l'église tous les dimanches.
Voilà. On met des cierges avec nous.
Et tu votes pour le roi, bien sûr.
Maintenant, qu'on fasse gaffe, si ça continue, là pour le coup, autre dommage collatéral, moi je mise sur un MeToo Formule 1 dans les 3 ans qui
viennent. Voilà, c'est ça. C'est...
Allez, revenons au sport. Retour sur l'exploit d'un jeune pilote, Oliver Bearman, qui a brillamment remplacé Carlos Sainz, le pilote Ferrari, qui était victime d'une crise d'appendicite ce week-end. Bearman, l'homme ours, l'exploit. Mais avant de parler de cet exploit, un mot avec Laurent, au sujet de nos sponsors, Laurent. Il s'agit bien sûr de NordVPN.
Donc c'est NordVPN. Donc NordVPN, c'est un VPN, hein, comme les autres, sauf qu'il y a pas mal d'avantages. C'est qu'au-delà du VPN, il t'offre le VPN, donc pouvoir te connecter de n'importe où vers n'importe quel pays, mais aussi quand tu es à l'étranger, de revenir en France. Donc si tu as envie de suivre la Formule 1 avec ton abonnement en France, ben, tu ne peux pas si tu es à l'étranger, mais grâce à ça, tu peux quand même le suivre en France. C'est quand même une sacrément bonne nouvelle. Et aussi plein d'autres services de sécurisation, de double VPN, donc c'est plutôt pas mal. Et franchement, ils sont hyper smart avec nous. Et moi, j'en ai pas mal testé. Et en fait, c'est celui que je préfère. Donc voilà.
Offre spéciale, hein, avec 4 mois d'inscription supplémentaire si vous souscrivez à un abonnement de 2 ans en cliquant sur le lien en description de l'émission ou encore en cliquant ou en photographiant le QR code que vous avez vu passer à l'écran. Le lien est dans la description.
Ça ramène le prix à moins de 2 cafés par mois.
Allez.
Donc voilà.
On enchaîne donc, revenons au sport. Le jeune pilote de F2, Oliver Berman, membre de la Scuderia Academy, ça fait plaisir, a appris quelques heures avant la qualification qu'il devait remplacer Carlos Sainz. Il s'est classé en qualif dixième, loupant la Q3 de quelques dixièmes seulement.
0,003, ouais. Ce qui est incroyable.
Juste derrière son compatriote Russell. Il s'est classé septième derrière... Norris, exact. Il s'est classé septième derrière son compatriote Russell, durant la course, mais devant également son compatriote Norris et surtout Hamilton, huitième et neuvième. Vos réactions en plateau et on te donne la parole. Au Tefosi, alors. Ça y est, vous avez vos futurs le remplacer.
Les autres.
Après.
Non, mais attends.
Tu parles trop. Ouais. N'oublie pas que tu as un drapeau rouge déjà. Hein.
Déjà, non, mais c'est une véritable bouffée d'air. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a parlé de quoi ? On a parlé de la domination. Enfin, très peu parlé de la domination de Red Bull, puisque de toute façon, c'est à fait. Ouais. On a parlé surtout de finalement de d'histoire rocambolesque. Et là, enfin,
heureusement, sinon on n'aurait pas grand-chose à dire, les amis.
Hein. Bah, si, regarde, on a quand même un fait. Là, c'est un pilote qui a 18 ans, qui arrive pour la première fois en Formule 1 dans une Ferrari, qui arrive septième. Enfin, c'est juste extraordinaire. Franchement, j'aurais pas misé du tout sur lui.
Et car voilà, horizon bouché chez Ferrari, malheureusement, à cause d'Hamilton.
À cause d'un vieux qui revient de la
diable au vert. La question, pourquoi Hamilton ?
Pourquoi prendre un vieux ? Prenez des jeunes.
Mais oui. Puis, mais voilà, donc non, franchement, je pense que c'était le fait de course. Il était avec ce pilote. Quoi. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, on a vu quasiment que la Ferrari de Berman pendant
ouais, les, malheureusement. Les...
Ouais. Mais non, mais il n'y avait que ça d'intéressant.
Alors, ça nous a rappelé les débuts d'un Max Verstappen. Il est béni des dieux, Camille, ce pilote.
Hein. Oh, il faut de la chance pour rentrer en Formule 1. Mais il faut la saisir. Et là, il l'a saisi. Mm. Voilà.
Avec attention, un père
qui est vachement bien élevé, vachement sympa.
Ah, ouais. Ah, et ça, je suis d'accord.
On est d'accord.
Attention, pardon.
Avec un père vachement bien élevé.
Alors, regardez, une jolie image qui fait plaisir en parlant des relations père-pilote.
Voilà, hein. Ça, c'est des belles relations. Ça.
C'est le papa de Berman qui tombe dans les bras de son fils après la ligne d'arrivée.
Après tomber dans ceux de John Elkann, quand même.
Voilà, donc ça fait plaisir et on sent vraiment qu'il a vraiment ouvert.
Et dans ceux de Lewis. T'as vraiment bien résumé, Alain. Il faut un peu de chance. Après, je te laisse. Il faut de la chance et il faut la saisir. La chance, il l'a eu parce qu'il y a trois pilotes de réserve pour Ferrari. Il y a Giovinazzi, Schwarzman et Berman.
On a dit pilotes de réserve.
Et il y a trois
Giovinazzi,
pilotes.
Bon, ouais, voilà.
Giovinazzi et Schwarzman, oui, qui sont plus expérimentés, n'étaient pas disponibles ce week-end parce qu'ils sont engagés dans le championnat endurance. Mmh, et du coup, Frédéric Vasseur a préféré en fait utiliser le pilote qui était déjà sur place à Jeddah, en F2, et en l'occurrence Oliver Berman, donc un peu de chance quand même, mais effectivement il l'a très bien saisi, il est à 46 millièmes de sortir Hamilton lors de la Q3, ça aurait été assez cocasse qu'il sorte Hamilton, et ça aurait fait aussi une belle histoire, et il a fait un Grand Prix très solide, bravo à lui en tout cas, bravo à Berman.
Alors,
allez,
est-ce que je peux me tourner juste 30 secondes vers notre team principal et après je te laisserai la parole.
Mais non, il va couper à la fin, c'est le sage.
Eric, qu'est-ce que tu as pensé de l'attitude de Laurent qui va me coûter une fortune en avocat et accessoirement de ce jeune pilote que tu as certainement surveillé de loin.
Déjà, c'est très brave de la part de Ferrari et de Fred Vasseur de prendre un jeune, ce qui est quand même assez rare, donc faut le souligner.
Il aurait pu appeler Jean Alési, c'est vrai.
Ils ont quand même souvent tendance à se rabattre sur des vieux parce qu'il y a la référence. Berman, c'est quelqu'un qui a une très belle carrière en karting, qui a plutôt une belle carrière en F4, en F3, un petit peu en retrait. Mais en F2, en tout cas, ça marche puisqu'il fait la pole le samedi, le vendredi. À Jeddah, mais qui surtout a eu un très très bon test en F1 au mois d'octobre. Et c'est ce qui a un petit peu allumé, plaidé en sa faveur, en tout cas pour le choix. Effectivement, comme l'a dit Guillaume, il y a des opportunités. Maintenant, le gamin, quand même, chapeau, parce qu'il a passé une heure dans la Ferrari le matin. Ensuite, direct en qualif, et effectivement, à peu de choses, il aurait pu sortir le sextuple champion du monde. Lewis, qui est son compatriote, mais surtout, il a fait une course très solide où c'était là où tout le monde l'attendait. Est-ce qu'il allait pouvoir tenir physiquement pendant une heure et demie? Et il l'a fait, donc chapeau bas. Et pour revenir à son père, on l'a vu. Son père, on l'a vu tout le week-end. Il y avait un mec qui était accroché à l'aileron arrière de la voiture en garage, c'était lui. Donc,
c'est clair. Alors, on s'en tient.
Je crois que le père a autant vécu son rêve que le fils.
Tout jeune père, d'ailleurs. Allez, vas-y, Laurent. Tu vois, c'est facile de ne pas se mettre à dos avec la moitié du paddock.
Donc, alors, attention, moi, j'ai adoré. J'ai adoré ce jeune. J'ai adoré.
Mais.
J'ai adoré. Je dis juste attention. Non, j'ai attention. On a dit la même chose de Nick De Vries. On a dit la même chose de Nick De Vries. Nick De Vries est arrivé. Mais non, mais la voiture était moins bonne, le machin. Et au final,
il avait 27 ans.
Il a pas du tout performé. Je me souviens pas d'une course. Ouais, il en a retenu notre attention.
Mais si, mais si,
à Monza,
à Monza,
dernière, quand il
a remplacé. Donc c'est ce qui a fait qu'il a eu, c'est ce qui a fait que il a eu ce truc.
Maintenant, ouais, mais les gars, Monza, c'est pas du tout le même circuit que.
Non.
Que,
ouais.
Je vous donne. J'ai là, je suis dans un circuit qui demande énormément. Hein,
ouais. Je vais vous donner. Je vais vous donner trois choses. Ok. Je voudrais. Je vais faire. Je vais faire comme. Je vais donner trois choses.
Je te donne la parole. Attends.
Box.
Peux y aller.
Trois choses. Un. J'ai trouvé les images énormes et j'ai trouvé la fraîcheur et l'intelligence de ce pilote incroyable.
Son papa.
Maintenant, je vais vous son papa. Tout à fait. Ça, j'ai adoré. Je vais vous donner deux trucs qui m'ont marqué. La première, c'est que dans la voiture, il a dit. Putain, mais c'est quoi ces trucs qui gênent autour du casque. Il était gêné par les mousses autour du casque. Ouais. Et à l'arrivée, la mousse gauche était défoncé. Ouais. Ça te laisse imaginer combien les impacts dans le truc.
Il a dit, le coup, hein.
Ouais, il a dit quelque chose de génial. Ça marche mieux. Hein. Ça marche mieux en anglais qu'en français, mais je vais le dire en français. Il a dit en Formule 2, on pilote jusqu'aux limites de la voiture. Et en fait, en Formule 1, on pilote jusqu'aux limites du pilote.
Ouais, c'est bien dit.
Et ouais. Je trouve que c'est magnifique ce qu'il a dit. Et c'est une très très belle tournure.
Good job. Solid. Very solid.
La première fois.
Ouais. J'étais court en plus. Hein.
Après, juste un petit commentaire sur Nick De Vries, parce que Nick De Vries a eu une carrière absolument phénoménale, oui. et ça n'a pas marché en F1, ce qui est très dommage pour lui, parce que j'ai l'avantage de le connaître très bien. Mais Berman, en fait, effectivement, a fait un travail incroyable par rapport aux contraintes d'une première course. Oui. Si vous comparez avec De Vries, après, effectivement, si on lui donnait 5 courses de plus et qu'il était toujours à la même place et pas aux alentours de Charles Leclerc, évidemment, il y aurait un problème. Donc là-bas, c'est la différence. C'est que, en tout cas, c'est pour vrai. Une première course, il a fait un job incroyable. Ouais. Après, est-ce qu'il est capable d'aller chercher Charles Leclerc ou de challenger Charles Leclerc avec les performances de la voiture? Ça, on ne le sait pas et on ne le saura peut-être jamais. Mais je lui souhaite en tout cas d'aller en F1 un jour. Il a sa place pour l'instant.
Et il est vrai que De Vries a quand même été champion de Formule E, hein, Formule électrique. Et que
champion de tout d'ailleurs, il a gagné pas mal de championnats, ouais. Auparavant, donc c'est un pilote qui peut aller très vite, qui n'a pas pu trouver sa place dans le contexte difficile, ouais. de
l'Alfa Tauri. Surtout avec un patron comme Helmut Marko, qui ne lui a pas vraiment laissé beaucoup de temps pour s'imposer. Au-delà, c'est vrai que commencer par un Grand Prix comme le Grand Prix d'Arabie Saoudite de Jeddah, c'est un Grand Prix qui est quand même, il faut avoir non mais en plus il y a des virages, oui c'est moi, on ne parle même plus de Stroll.
J'ai entendu une blague énorme, Astrol, ouais. Martin.
Pas mal.
C'est joli. Et au-delà, c'est un circuit avec beaucoup de virages sans visibilité, donc il faut avoir un gros cœur. Tu parlais de Leclerc, je me tourne vers mes tifosi. Leclerc, second, de nouveau, en première ligne lors de la qualif, hein, brillante second temps à 0,3 de Verstappen. En course, il n'a pas pu vraiment résister à Pérez, mais on le sentait un peu ennuyé. Mais quel bilan vous tirez quand même de la course de Leclerc? Et au-delà, quel bilan de cette SF24, la nouvelle Ferrari, après deux Grands Prix?
Tu veux démarrer?
À toi. Vas-y.
Un bilan positif, si on regarde ce qui s'est passé quand même l'année dernière. Mm-hmm. Je me demande même s'il avait fini la course ou...
Enfin, là, on est d'accord.
Bon. Ouais. Il est quand même troisième. Il n'est jamais finalement réellement challengé dans son poste, à tel point même qu'il s'est quasiment ennuyé. Enfin, c'est ce qu'il raconte. Hein. Oui. Il dit voilà, les Red Bull étaient inatteignables. Et puis concrètement, derrière lui, il y avait quand même pas mal d'espace. Donc,
18 secondes derrière Max, sachant que Max a levé le pied.
Oui, il y a eu la safety car en plus. C'est-à-dire que ça se trouve, c'était même beaucoup plus que ça. Voilà, donc je suis content sur le principe de voir une Ferrari qui continue à évoluer positivement. En même temps, moi, j'ai pas envie de rester troisième. J'ai pas envie qu'il reste troisième. Donc, j'espère qu'il y a encore une marge de progression possible. Et je note juste une chose rigolote, c'est que quand il était dans les stands et qu'il observait les qualifs de Berman, il a eu un mot sympathique à son égard où il expliquait que il a fallu lui coller la pression en fait. Hein. C'est que
ils étaient bienveillants tous les pilotes.
Ils étaient très bienveillants et je trouvais ça sympa. En tout cas, le clin d'œil à
Vasseur était bon. Hein. Vasseur lui a dit, sois pas un héros, truc. Ouais. Et je pense que ça lui a permis de faire descendre la pression aussi. Mm. C'est là où tu te rends compte ce que c'est un grand manager. Hein. Mm. Tu vois, il te dit, Vasseur m'a dit, ramène la voiture, quoi. Tu vois, sois pas un héros. Et en fait, du coup, c'est.
Donc, Ami, qu'est-ce que tu penses du SF de la SF24 cette année?
Non, mais elle m'inspire confiance. Clairement, pour moi, c'est la deuxième écurie du plateau. Je crois que les choses là aujourd'hui sont claires. Il y a bagarre entre Mercedes et McLaren, c'est évident aussi. Et puis derrière, ça va être très marrant. Parce que franchement, ça se tient. Hein.
En fait, ce qu'on disait tout à l'heure, on était assez d'accord, on disait, si tu devais couper le plateau en deux, ouais, en fait, tu as 5 et 5. Si tu veux le couper en 3, c'est facile. Là, c'était la remarque de ton ami. Hein. Ouais. Donc, il disait, bon, mais en fait, il y a 3. Non, moi, j'ai dit, il y en a 2. Il dit, non, il y a 3. Il y a Red Bull en haut. Il ouais, ouais, y a les 4 autres qui sont avec Ferrari en haut. Mais ça va, ouais, ça, ils vont se battre, quoi qu'il en soit. Puis après, il y a les 5 autres. Ouais, donc, ouais, il va y avoir du...
Un truc qui est étonnant, c'est Aston, hein, qui joue Ferrari de l'année dernière. C'est-à-dire, je suis bon en essai, je suis mauvais en course.
Ouais, enfin, attention, c'est Alonso qui est bon en essai. C'est pas forcément
qui est bon. On est d'accord.
Je pense que Stroll sous-performe un peu la voiture, mais Alonso surperforme la voiture, notamment en qualification.
Il garde un merveilleux humour, hein, quand Stroll casse sa suspension, là, boum, lui, il va toucher le mur, il dit, tiens, je viens de faire un petit baiser.
Moi, je casse pas.
La seule Aston
vous voulez m'attaquer sur mon terrain,
la seule Aston qui était en tête de course, comme le disaient les commentaires de Canal, c'était la safety car, en fait.
Bravo.
Monsieur le team principal, les performances de Ferrari, brièvement, avant de passer à la 13e force du plateau.
Non, bah, Ferrari, effectivement, est la deuxième force. Ils ont gommé, en fait, je pleurais, les défauts de la voiture l'année dernière. Ils ont leur propre concept. Ils n'ont pas trop copié Red Bull, en fait. Et donc, ils ont progressé. Clairement, la voiture
Mercedes,
elle est plus stable. Elle est aussi vite sur un tour. On sent une voiture qui est plutôt une base sereine pour travailler, en tout cas, et développer. Sachant que l'année prochaine, il y a encore un an à faire avec ces concepts. Donc deuxième force, clairement Mercedes, je pense qu'ils sont toujours en train un peu de se chercher quand même depuis 2-3 ans maintenant, et effectivement se battent avec McLaren qui a peut-être fait un petit step back, on va dire, mais c'est à l'ordre établi, mais ça va changer de toute façon dans le futur. Maintenant, ce qui est vraiment ennuyant, c'est que la Red Bull, le nouveau concept, fonctionne.
Aïe, aïe, aïe.
Et donc, il est au début de son développement. Donc, c'est peut-être pas que cette année que ça va être compliqué. C'est peut-être aussi l'année prochaine.
En tout cas, la troisième force du plateau n'est plus Mercedes, mais plutôt McLaren, tu le disais. Analyse avec Nofana du paddock.
Je suis d'accord.
Est-ce que Mercedes est à nouveau victime de ces vieux démons? Comme l'an passé, l'écurie Mercedes... On arrête de me couper pendant mes lancements. L'écurie Mercedes semble faire le yo-yo en matière de classement, alors qu'elle s'était montée très solide à Bahreïn. Russell n'a rien pu faire face à Piastri et même Alonso, hein, quoi qu'on en dise. Hamilton, quant à lui, était timidement le 9e. Les vieux démons de Mercedes sont-ils donc de retour? Mes amis, fanat du paddock, t'étais pas d'accord, vas-y.
Non, je pense qu'ils sont très très proches avec McLaren, et je pense que effectivement.
Non, mais si, ils sont assez proches.
Ils n'étaient pas du tout inquiétés. Piastri était largement devant Russell.
Non, mais sur les deux grands prix, c'est.
Non, mais Norris. Non, mais c'est intéressant ce qui s'est passé entre. Moi, je prends plutôt Norris Hamilton. Tu vois, je veux dire, en dehors du fait que Norris a été quand même doublement non pénalisé. Donc il y a eu le jump start où il n'a pas eu, mais on a dit oui, alors il n'a pas été pénalisé parce qu'il n'a pas tiré avantage. Et donc du coup, il s'est automatiquement pénalisé. Par contre, il a fait un slalom terrible. Et c'était le moment où Hamilton était en train de le doubler.
Oui,
et après, ils se sont toisés pendant longtemps. Pendant longtemps, il y a eu ce truc de, tu te dis, tiens, je joue du chat et de la souris. Donc
il l'a fait une fois aussi, donc il a eu un avertissement.
Il a eu un avertissement, mais bon. Il y en a d'autres qui ont, pour moins que ça, demande à As. Hein.
Alors, Eric, on a beaucoup raillé pendant les essais, pendant la qualif, le fait que la McLaren était très chargée en aileron, à tel point qu'elle n'avait pas de vitesse de pointe. Même Alonso s'est un petit peu moqué, mais même Mercedes n'a pas pu le doubler.
Pas pu le doubler, c'est le même moteur. Et puis, je pense que la finesse aéro de la McLaren est quand même relativement bonne, même s'ils avaient une option un peu plus chargée pour peut-être compenser un peu l'usure des pneus, la dégradation des pneus qu'ils avaient aperçue à Bahreïn. Et puis à noter aussi un petit sujet, je pense que Russell est en train de prendre un peu le lead chez Mercedes. Il y a le petit effet annonce, je vais chez Ferrari, donc je pense que Lewis commence à être un petit peu mis à l'écart et ça se voit tout de suite, quoi.
Ouais. Et puis il y a plus l'excuse de la semaine dernière, hein, où la semaine dernière ils annonçaient d'y avoir des difficultés de refroidissement, donc ils auraient perdu plusieurs dixièmes voire une seconde au tour. Là, il n'y a pas eu de. Bon, encore une fois, c'est un circuit atypique. Bon. On aura une réponse du côté de l'Australie. Beaucoup de problèmes, comme les années précédentes, Laurent ou Eric, ou qui veut intervenir, peu importe.
Porpoising.
Des rebonds, de l'instabilité qui est de retour. C'est vraiment un problème récurrent depuis des années, depuis la nouvelle réglementation, bien qu'ils aient changé de philosophie cette année.
Oui, mais beaucoup d'écuries l'ont. Hein. Je regardais les images de Ferrari, tu vois la tête de Leclerc, et en fait, dès que tu es dans une ligne droite, tu te rends compte que ça...
Non, mais
ça,
ils ne perdent pas le contrôle, quoi. Ils restent en confiance.
C'est ça, c'est violent. Donc, il y a deux écuries qui souffrent vraiment, vraiment, vraiment. Hein. C'est Mercedes, tu le sens que c'est revenu. D'ailleurs, on a l'impression qu'ils ont dit, que l'écurie a dit, la voiture va être mieux, encore une fois, pour essayer de contenter Lewis, mais la voiture n'est pas vraiment mieux. Je crois que c'est quoi ? C'est Tsunoda qui s'en est plaint aussi, hein. Qui a dit que la voiture avait beaucoup de rebonds et qu'il en souffrait beaucoup.
Autre difficulté, bien sûr, de ce Grand Prix, sans surprise, c'est Alpine, mon cher Guillaume. On ne va pas t'accabler hein, avec un Ocon hors des points et un abandon dès le premier tour pour Gasly. Ocon se classe 13e. Elles sont vraiment dans l'impasse, hein, l'écurie.
Ouais, le constat est difficile. On avait déjà un gros déficit de performance. Et si on ajoute le manque de fiabilité derrière, comme Gasly ce week-end, ça va devenir très, très compliqué. Donc, week-end clairement noir pour Gasly. On va quand même souligner un peu de positif chez Ocon avec une belle course dans le peloton.
Il s'est battu.
Et j'ose peut-être espérer que sans la manœuvre un peu litigieuse de Haas, il aurait pu lutter pour la 10e place et récolter un point.
C'est bien connu hein, des Grands Prix.
Bon, mais on attend des développements dans deux ou trois Grands Prix, des évolutions sur la voiture pour le Japon. Donc on espère que ça va aller dans le bon sens et que tout va aller un peu mieux pour nos bleus à l'avenir.
Éric, quelle attitude adopter pour l'écurie qui doit préparer finir la saison, préparer la nouvelle réglementation en 2026? Est-ce qu'il faut miser sur 2025 alors que 2026, il faudra tout changer? Et puis, quid des pilotes qui sont tous en fin de contrat à un moment donné? Ça va commencer, la pression va monter de plus en plus. C'est vraiment compliqué, compliqué hein, à gérer.
Ça va être compliqué, effectivement. Il n'y a pas autre chose à dire. Après,
tu n'as pas reçu des SMS de Luca Di Meo récemment, non?
Non, mais la priorité aujourd'hui, c'est reconstruire l'équipe, en fait. Et reconstruire l'équipe, ouais, parce que reconstruire, ça fait maintenant 27 fois qu'ils essayent. Voilà, c'est reconstruire l'équipe et il faut effectivement stabiliser l'équipe avant de commencer à réfléchir à des stratégies sur 2025, 2026, voire même penser à des pilotes. Donc voilà.
Est-ce que la période la moins instable, c'est pas la période à Pitbull là sur les dernières années finalement?
On répondra à ça peut-être la semaine prochaine.
Mais la période la moins instable, oui, ça a été avec Cyril.
Ouais, ben ouais.
Même si la période a été assez courte en finale.
Mais c'est celle où ça paraissait le moins.
Ben parce qu'il y avait une vraie stratégie comme on avait essayé de faire à l'époque avec Ginny Capital, c'est-à-dire à partir de 2010, 2011, 2012, on met en place quelque chose qui se stabilise. C'est la même chose que Cyril a fait. Parce qu'il n'y a pas le choix. Là, ils sont partis pour 3 ans de construction ou de reconstruction d'équipe avant de voir des résultats et avant de pouvoir commencer à se flamber, entre guillemets, avec les pilotes, les stratégies, les trucs. Là, c'est 3 ans de travail pour tout construire.
Puis il avait un peu de panache, Cyril, finalement, par rapport à là. C'est un peu mollasson, là, chez Alpine.
Je pense que tu as déjeuné avec lui il n'y a pas longtemps.
Non, mais c'est pas ça.
C'est un peu compliqué, compte tenu du contexte.
C'est compliqué. Ouais.
Monsieur, je vous
propose. Même Gasly est agacé d'être interviewé sur ce sujet-là. Hein.
Je vous propose qu'on passe au box avec un petit box. Quiz F1. Alors, qui va battre cette semaine, monsieur le team principal, Éric Bouillet? 4 questions, 4 indices, une réponse. Si vous répondez de suite et que vous êtes. C'est faux, vous êtes éliminé, et ainsi de suite. 4 points, 3 points, 2 points, 1 point. Je compte sur la régie. Pour me donner les... Tiens, c'est toi qui prends les points.
Allez, voilà. Je prends les points. De toute façon, je n'ai pas remarqué, moi. Allez, on y va.
Alors, est-ce que vous êtes prêts, messieurs?
On est prêts. Attention, pas comme Norris.
Go!
On aurait pu en parler de Norris, mais on n'a pas eu le temps. Il s'agit d'un pilote de F1, il ne s'agit pas de Norris. Avant de devenir un grand pilote de F1, j'ai été un espoir du ski français. Avant de devenir un grand pilote de F1, j'étais un espoir du ski français.
François Sévère.
Non.
Tambay.
Patrick Tambay. 4 points bien. Pour wow. Laurent Pantanage, pour Helmut Merko. Magnifique.
Il a failli ne jamais faire la F1 d'ailleurs.
Ouais, j'ai piloté pour McLaren, on l'a oublié, pour Renault ou encore Ferrari. J'ai remplacé Gilles Villeneuve après son décès et je suis décédé malheureusement en 2022. Le grand Patrick Tambay. Oui, Laurent.
Non, c'est...
Bon. Un pilote, encore une fois, Attention. J'ai succédé à Bruno Senna chez Williams. Tu as dit ?
Non, non, le
Montoya ?
Non. Non. Tu es donc éliminé.
Oui. Et je prends les notes. Allez, on y va.
J'ai remporté 10 victoires et 20 pole positions.
Ah oui.
J'ai remporté 10 victoires et 20 pole positions.
Il n'y a pas grand
Nigel ?
J'ai remporté Bruno Senna.
Ah oui, Bruno.
En bas.
Bon, éliminé. Décidément, les Tifosi, ça va fort. Hein.
Ah non, comme les Ferrari.
Attention, attention, messieurs, je porte le numéro 77.
Valtteri Bottas.
Alors, moi, je dirais que c'est plutôt en... Qu'est-ce que...
Moi, je les mettrais à égalité parce qu'il y a une latence.
Allez, je pense qu'il y a une latence.
Il y a
une latence avec le type.
Donc, c'est 3 ou 2. Il y a le décalage pour le principal.
Alors là, c'est 2. C'est 2. Donc, 2 pour Laurent et 2 pour... Ah, moi, je ne t'avais pas noté. Et 2 pour Eric. Et 2 pour Eric.
Pourquoi 2?
Il s'agit bien sûr du Finlandais volant Valtteri Bottas et la dernière indice c'était bien sûr sa fameuse coupe mulet hein, que tout le monde lui envie le magnifique regardez comme il est beau Valtteri.
Mais là il a le sponsor tu sais le sponsor de Energy là. Le sponsor de As pardon.
Ouais c'est
très mal.
En tout cas il se prend pas au sérieux et on adore moi j'adore. Un circuit messieurs. Je suis un futur circuit dessiné par Herman Tilke, encore lui, et Alexander Wurt.
Comment ?
Un futur circuit.
Jeddah, la montagne, là, au pied de la montagne.
Non, c'est pas comme ça que ça s'appelle.
Ouais, mais
c'est un futur circuit, j'ai pas le savoir, dessiné par Herman Tilke et Alexander Wurt. Mon point d'orgue se baptise The Blade.
Point d'orgue. C'est ça, dites-le les gars.
Pas le nom en tête.
Non, mais on n'oublie pas le nom en tête. Mais c'est ça, je l'ai trouvé. Putain,
il faut que c'est pas ça.
C'est le remplacement de Jeddah.
Mais non.
Il a raison.
Mais non,
non, je suis désolé.
C'est le deuxième d'Arabie Saoudite.
Mon point d'orgue. Ah, ben oui, mais il fallait dire Arabie Saoudite, il l'a dit.
Mais non, il l'a
dit. Mais non, il fallait dire.
C'est pas le remplacement, c'est un complément.
Moi, je suis d'accord de partager mes points.
Non, ça fait 0,5 chacun.
Non.
Ben non, attends.
Ça va, il domine.
C'est la première question là, non?
Mais non, c'était combien là?
Mon point d'orgue, c'était donc c'était 3 points là.
3 points.
Allez, 3 points chacun. Allez, soyons grands seigneurs. Donc, The Blade, je vous rappelle que c'est une épingle qui se tira sur une plateforme surélevée à 70 mètres de hauteur. Ça permet énormément. Et j'ai remplacé effectivement le circuit de Jeddah en Arabie Saoudite. La réponse, c'était le circuit de Qiddiya Speed Park.
Impossible.
Qiddiya, il faut réviser, messieurs. On a beaucoup parlé la semaine dernière.
Avec des notes, tu n'arrives même pas à le prononcer.
Qiddiya Speed Park. Qiddiya Speed Park.
Ça va,
Lizzie. J'ai jamais été aussi bon que ça.
Alors, on en est au niveau des scores, monsieur.
Alors, Laurent, 6 points.
Ouais.
Ensuite, on a Alain, 3 points. Eric, 2 points.
Oui, aïe, aïe. Bon. Un constructeur, messieurs. Il reste encore 2 questions.
Eric va me passer devant, là.
J'ai remporté 13 titres pilotes et 10 titres constructeurs.
Allez, je l'attends. Williams ?
Ouais, je pensais aussi, donc c'est bien. Tu as toujours dit la même.
Attention, messieurs. J'ai équipé les écuries Lotus, McLaren, Tyrrell et Benetton. J'ai équipé les écuries Lotus, McLaren,
Renault. Ouais.
Et non, c'était le piège. Attention, messieurs, j'ai abandonné la F1 en 2004 après l'échec de Jaguar.
Ah, on parle d'un moteur ou
constructeur, moteur.
Le droit du bar.
Il est constructeur et motoriste.
Oh, Cosworth, c'est plus que ça. Hein,
Ford, bien sûr. J'ai abandonné la F1 en 2004 après l'échec de Jaguar. 2 points.
J'ai dit Cosworth.
Et je reviens en F1 en 2026 avec Red Bull. On parlait tout à l'heure de Ford. Dites-vous que pour le Grand Prix, pour le quiz, il y a toujours des choses de l'émission ou des choses dont on a parlé la semaine d'avant.
Ah, mais ça, je ne connaissais pas cette règle.
Ben oui,
c'est nouveau.
Sérieux. Allez, dernière question.
Attends.
Ça donne quoi, là, docteur ?
Non, mais bon, toujours 6 points pour Laurent, 3 points pour Alain, 4 points pour Eric.
Donc, Eric,
Guillaume, balle de match. Voilà.
Balle de match.
Allez.
Une écurie. J'ai le record du monde de podium en F1.
Ferrari.
Bravo. Moi je dis bravo.
Non, mais c'est très bien, t'es en forme là. Bravo.
Non, bravo.
Et c'est la première fois qu'il gagne ce quiz.
Bravo. Putain, c'est la première fois, c'est vrai. Et je dis, on a parlé tout à l'heure.
Mais oui, on a parlé tout à l'heure.
J'étais sur un truc, je regardais le nombre. Par contre, j'ai hésité parce que j'avais le nombre de victoires, mais en fait, j'ai réalisé que c'était le nombre de podiums. Ouais.
Mon dernier titre constructeur date de 2007, ça commence à dater, mes amis les Tifosi. J'ai participé à toutes les saisons de F1 depuis la création du championnat du monde.
Incroyable.
Et mon fondateur, j'ai baptisé le Commandator, bien sûr.
Ah oui.
Il s'agit bien sûr de la sympa.
Oui. À côté, Helmut Marko est un bébé, un enfant, un nouveau-né.
Oh, eh bien, purée, je suis content, les
bravo,
gars.
Laurent, bravo, Laurent. Bravo,
bravo, bravo, bravo. Alors là, bravo.
Alors voilà, marqué du pierre blanc cette journée. On enchaîne avec vos pronos du Grand Prix de Melbourne. Tu es chaud, Laurent. Quel est ton pronostic pour le Grand Prix de Melbourne ?
Alors, j'ai réfléchi hier et je me suis dit, à chaque fois que je faisais un truc un peu exotique, ça ne fonctionnait pas. Donc, je vais dire, j'en ai marre du classement actuel, je vais faire le choix normal. Ouais. Non, je vais faire le choix normal pour que ça n'arrive pas. Ouais. Donc, en fait, c'est un anti-prono. Donc, mon anti-prono, c'est Verstappen, Pérez, Leclerc. Comme ça, ça n'arrivera pas. C'est sûr que ça n'arrivera pas. Donc, voilà.
C'est un bon prono. Moi, je dis que c'est une petite cote, mais c'est un bon prono.
Mais ouais, mais au moins, ça arrivera. Non, je verrai.
Eric, ton pronostic de ton côté.
Verstappen, pour ne pas être original, je mettrai Leclerc en 2 et Pérez en 3.
D'accord. Pépone.
Ouais, je sors un petit peu des clous aussi.
Verstappen, c'est donc Camille.
Ah, ouais.
Non, mais on est interchangeables.
Ouais, je sais.
C'est pas gênant. moi, c'est pareil, c'est Max en 1. Ouais. Leclerc en 2. Ah. Par contre, je mets Russell en 3.
Ah. Russell en 3.
Je pensais que c'est ce qu'aurait fait Eric. Quand il a hésité,
j'ai diable au vert. Donc, Camille.
En fait, c'est exactement ce que j'aurais dit.
Ah, tu vois ?
Voilà,
on est interchangeable.
Donc, Camille.
Ouais.
Pareil ?
Ben oui,
donc,
pareil.
Max, Charles et Georges.
Et Georges.
Voilà.
Et Guillaume ?
Je ne veux pas être très original. Gasly, ok.
Gasly.
Quand tu gagnes, si tu joues Paris ça et que ça se fait, c'est t'es un multimillionnaire.
Oui, vous l'avez m'offré tous.
Tu deviens le plus gros sponsor de l'émission, je pense.
Des gros dîners.
Donc premier Gasly, donc
premier. Non, premier Max Verstappen. Le deuxième sera toujours Checo Pérez et le troisième, pour faire plaisir à nos amis ferraristes, sera Charles Leclerc.
Ah, moi.
Petit bras. Petit engine. Moi, je prends des risques. D'accord, Verstappen, il faut le mettre premier.
D'accord.
Deuxième, écoutez bien. Aïe. Norris. Troisième, Piastri.
Wow. Ouais.
Troisième qui ?
Piastri.
Chez lui.
Chez lui. Mm. Voilà. Alors, on me souvient dans l'oreillette que j'ai oublié de vous diffuser, mille excuses, les résultats de vos pronos. Qu'est-ce que vous aviez pronostiqué la semaine dernière ?
Ouais.
On regarde ensemble.
Verstappen, en 2, Pérez et en 3, Russell.
Oh, c'est pour ça.
Verstappen, Pérez, Hamilton.
Alors moi, je vais prendre un peu de risque. Je prends Verstappen, Leclerc, Sainz.
Ah. Allez, Verstappen, Leclerc, Pérez.
Bien, et moi, de mon côté, ce sera pour moi Verstappen, Leclerc et Hamilton. Belle cote pour Hamilton. Eh bien oui, 9e, j'ai eu une belle cote, effectivement.
Ouais. Et moi donc ?
Non, mais Guillaume et donc Camille n'étaient pas très très loin, dans le désordre.
Dans le désordre, oui.
Mais je m'attendais à un peu mieux des Mercedes.
Là, tous. Oui,
mais je crois qu'on était tous.
Je pense que si on croit les résultats l'année dernière, ils seront un petit peu mieux. À Melbourne, le circuit est un peu plus...
C'est ce qu'on avait dit avant Jeddah aussi.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Allez, c'est la fin de Refait la F1. Merci de l'avoir suivi. Les amis, on se retrouve là dans 2 semaines, le lundi 25 mars, pour un débrief complet du Grand Prix d'Australie. Je vous rappelle qu'on refait la F1, c'est tous les lundis soirs après chaque Grand Prix. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. On refait la F1, vous savez, on dispose maintenant de notre propre chaîne YouTube. L'émission ne sera plus à terme diffusée sur la chaîne de Refait les Macs. Donc abonnez-vous et cliquez sur le petit bouton. Et cliquez également sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, dans 15 jours pour le Grand Prix de Melbourne. Et merci encore pour votre fidélité. Salut !